L'instant entrepreneurial. L'instant entrepreneurial, c'est un moment d'échange sur les questions relatives au domaine de l'entrepreneuriat en général et au Cameroun en particulier. L'instant entrepreneurial, c'est votre émission découverte des différentes écoles de formation visant à promouvoir l'entrepreneuriat au sein de la jeunesse. L'instant entrepreneurial, c'est aussi un regard de Radio Intégration sur les différentes communautés étrangères vivant au Cameroun, leur insertion et les différentes activités qu'elles mènent au quotidien. L'instant entrepreneurial, c'est sur Radio Intégration.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.
Bonjour madame, monsieur, bonjour. L'instant entrepreneurial édition de ce jour, c'est une présentation de Joël Effa. L'instant entrepreneurial consacré à la production et la diffusion des connaissances sur l'entrepreneuriat. Bon à savoir, monsieur Josué Nabral est à la technique. L'instant entrepreneurial édition de ce jour, c'est dans le format auquel vous êtes habitué. Nous aurons le portrait en première partie, la découverte en seconde partie et enfin le clin d'œil. En guise d'invité, nous recevons monsieur Cielino Clotaire. Il est expert international dans la transformation des aciers inoxydables, CEO de l'entreprise Dollar Bijoux située à Yaoundé. Dans la rubrique découverte, nous parlerons de l'Institut universitaire Matafène, situé à Yaoundé. C'est un institut qui prépare ses futurs lauréats à intégrer rapidement le marché de l'emploi. Dans Clin d'œil, l'émission s'intéresse à l'activité de la CAS au quartier Vogada à Yaoundé. Une activité menée en grande partie par la communauté nigériane. Nous sommes donc allés à la rencontre de Monsieur Elias Ogou. Ressortissant nigérian, il est directeur général et président de cette CAS. Il va nous parler de son activité et surtout de son insertion au Cameroun. Le métier de bijoutier fait partie du secteur de l'artisanat. Ce professionnel de l'art utilise différents matériaux et techniques pour créer des bijoux, des bracelets, des bagues et des colliers, etc. Il est également amené à réparer ou à restaurer les bijoux abîmés. Le bijoutier exploite tout type de métaux, qu'ils soient précieux ou non, en or, en bronze, platine, laiton, argent, céramique. Pour en savoir plus sur ce domaine, nous recevons un expert sur ce micro. Bonjour monsieur Cielino Clotaire.
Bonjour, madame.
Et bienvenue à la Radio Intégration.
Ah, c'est un plaisir pour moi.
Pouvez-vous vous présenter brièvement et nous parler de votre cursus?
Que dirais-je d'une la modeste personne que je suis? Je suis Clotaire Rémi Cielino. J'ai pas poussé les études universitaires très loin. Je suis arrivé à l'université où j'ai fait 2 ans. Ensuite, j'étais déjà même engagé dans la vie active. Donc aujourd'hui, je suis détenteur d'un brevet d'invention délivré par l'OAPI que j'ai obtenu en 2018. Et j'ai aujourd'hui un titre, comme vous l'avez dit, d'expert international et je suis membre de l'ordre des experts internationaux du monde entier. Donc mon secteur d'application notamment c'est la transformation des aciers inoxydables parce que c'est un secteur qui me passionne. C'est une industrie qui est négligée chez nous et j'ai pris sur moi la responsabilité de faire en sorte que cette industrie naisse et qu'elle soit un des supports sur lesquels le développement économique va s'appuyer pour grandir.
Et vous êtes aujourd'hui CEO des entreprises Dollar Bijoux. Oui. C'est quoi exactement Dollar Bijoux?
Comme je le disais dans le temps, Dollar Bijoux, c'est justement cette vision-là, cette volonté de vouloir transformer localement des aciers inoxydables en produits dérivés. quand je parle de produits dérivés, on touche vraiment tous les secteurs. Mais comme nous n'avons pas les moyens dès le départ, on est obligé de commencer par un secteur qui est la bijouterie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable de manière artisanale de confectionner des accessoires, des chaînes, des bracelets personnalisés avec votre prénom, des formes que vous souhaitez, des petites gadgets de bureau. C'est ce qui est possible à notre niveau aujourd'hui. Et à partir de là, déjà, on a eu un très bon écho. Je veux dire, depuis qu'on a lancé ce projet, les gens ont bien accueilli le projet et nous demandent qu'à nous voir évoluer. Et c'est là que commence le véritable problème d'un entrepreneur. Sinon, Dola Bijoux, c'est la conception et la fabrication des bijoux et accessoires, mais principalement en acier inoxydable, parce que pour chez nous, les autres matières viennent après. Notre matière principale, c'est l'acier inoxydable, parce que c'est une matière qui a des capacités extraordinaires. C'est une matière que vous pourrez porter toute votre vie sans avoir de soucis, qui ne changera pas, qui ne va pas se détériorer, qui ne va pas changer de couleur, qui ne va pas se plier n'importe comment ou encore se délaver. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc on a choisi expressément cette matière parce qu'elle a ce potentiel-là. Et il est inadmissible qu'une matière comme celle-là existe et que les Camerounais n'en profitent pas.
Que ne soit pas exploité. Alors, vous avez mentionné tout à l'heure que vous êtes lancé dans ce projet parce que au vu du domaine de l'entrepreneuriat au Cameroun, ce domaine particulièrement était négligé. Maintenant, quelle place occupe votre activité sur le plan de l'entrepreneuriat?
Vous pouvez pas me demander ce que ça occupe sur le plan de l'entrepreneuriat. Quand on parle d'entrepreneuriat, on parle de cette capacité à pouvoir innover, à pouvoir faire des choses qui vont résoudre les problèmes des personnes. Nous, c'est une partie. En fait, ce qu'on va résoudre comme problème, s'il faut reprendre de cette façon, c'est qu'on va permettre de manière catégorique aux entrepreneurs locaux de pouvoir produire en totalité leurs articles sur place. On a beaucoup d'entrepreneurs, par exemple, dans le secteur de l'artisanat ou des fabricants de vêtements, de chaussures, de sacs et tout, qui sont obligés d'importer les accessoires pour les finitions de leurs produits. Nous, on veut pouvoir fabriquer tous ces accessoires de manière locale afin qu'ils ne puissent plus être obligés de commander ailleurs. Si vous allez sur le marché camerounais, tout ce que vous allez voir comme bijoux fantasy, en acier inoxydable, en autre matière, tout ça c'est importé. C'est un marché qui est très costaud, qui est très lourd, mais qui ne profite pas réellement au Cameroun. Après, ce que je veux dire, on s'est dit non, pourquoi? Pourtant, on a le potentiel, on peut fabriquer tout ça sur place. On ne veut même pas capturer la totalité du marché. Mais ne serait-ce qu'avec la moitié ou une partie du marché, ce sera une très bonne chose parce que ça va permettre de créer des emplois, ça va permettre de remplir les caisses de l'État, ça va permettre d'avoir des visions internationales parce qu'on peut concurrencer un marché avec des produits qu'on a fabriqués localement. Vous voyez un peu ce que je veux dire?
Très bien. Donc, en résumé, ça veut tout simplement dire que l'entreprise Dola Bijoux s'est ralliée avec le gouvernement pour pouvoir contribuer à la politique de l'import-substitution. C'est bien ça. Alors, dites-nous, monsieur Célineau, comment se porte le marché de la bijouterie au Cameroun à ce jour?
Oui, déjà, je vais vous rappeler, quand vous parlez du marché de la bijouterie, il est très vaste. Le bijoutier ici chez nous peut être celui qui vend les bijoux. Le bijoutier peut être celui qui fait des bijoux en or, en argent. Le bijoutier peut être celui qui fait des bijoux en acier. Toute personne qui traite avec des bijoux, pour le dire de manière simple, peut être ou bien est généralement appelé chez nous bijoutier. Mais si vous me demandez comment se porte le marché de la bijouterie, je dirais très mal. Je dirais très mal, parce que si vous prenez chacun de ces secteurs, ça c'est ma façon de voir les choses. Si vous prenez ceux qui vendent, ils ne fabriquent pas. Donc, c'est importé à 100%. Il n'y a pas de contrôle. La qualité, c'est pas vérifié. Vous voyez ce que je veux dire? Beaucoup de personnes vont se retrouver avec des problèmes de peau, des problèmes de démangeaisons, etc. Tout simplement parce qu'il n'y a aucune maîtrise sur la qualité des bijoux qui sont importés dans notre pays. Si vous prenez ceux qui fabriquent, les bijoutiers qu'on rencontre partout, qui font de l'or et de l'argent et tout, eux, il y a un véritable problème au niveau de l'acquisition de la matière. Je vous parlais de l'or. Nous, on produit de l'or, mais c'est difficile d'avoir de l'or dans notre pays. je dirais même que 90% de l'or de notre pays est exporté. On ne doit même pas le dire parce que c'est des informations qui ne sont pas publiques. Vous voyez ce que je veux dire? Dans notre pays, on a des difficultés pour avoir les matières
premières. Et justement, lorsqu'on se dit fabricant de bijoux, vous nous avez parlé de votre cursus avec des études qui n'étaient pas très très poussées. Est-ce qu'il faut impérativement passer par cette formation? Parce que de nos jours, plusieurs personnes peuvent se lancer dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas. Est-ce que ce n'est pas ça le véritable problème?
Le véritable problème à quel niveau?
Au niveau de fabriquer peut-être des bijoux sans maîtriser le procédé. Vous nous avez dit tout à l'heure qu'il fallait déjà travailler sur la matière première. Si quelqu'un n'a pas reçu de formation, est-ce qu'il peut se lancer dans la fabrication de bijoux?
Non, pas tout type de bijoux. C'est facile de faire des bijoux en acier inoxydable, des bijoux fantasy, parce que vous pouvez faire des créations. Il y a tellement de possibilités. Mais quand on parle déjà des matières comme l'or ou l'argent, il y a ce qu'on appelle un alliage. Est-ce que je dis, il faut allier plusieurs métaux par un procédé chimique pour obtenir un résultat final. Et c'est là où tout se passe. Si vous ne maîtrisez pas ce procédé, alors il y a de fortes chances que vous donnez à des personnes qui ont sollicité vos services des produits qui vont plutôt être dangereux pour leur peau, pour leur corps. Parce que normalement, selon ma politique, ce que moi j'ai envie d'imposer dans les années à venir, c'est de faire comprendre aux gens, aux confrères bijoutiers, que normalement, chacun doit connaître sa peau. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez chez un dermatologue, qui est capable de vous dire que votre
peau
ne peut pas aller avec, par exemple, du nickel.
Tout à fait.
Avec, par exemple, telle matière, tel métal. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous allez avec cette ordonnance chez un bijoutier, il peut travailler tenant compte des recommandations de votre docteur. Et là, vous avez quelque chose au final qui correspond à votre peau. Il n'y a pas de souci. Trop de personnes portent trop de choses qui ne correspondent pas à leur peau. Et c'est pour ça que tout le monde a des soucis. Mais chez Dola Bijoux, malheureusement, on prend la peine de ne traiter qu'avec des matières qui ne peuvent pas poser de soucis.
Pourquoi malheureusement?
Vous avez dit?
Pourquoi malheureusement? Vous avez dit chez Dola Bijoux, on prend malheureusement la peine. J'ai envie de dire heureusement, parce que là, vous parliez déjà un problème de santé.
Oui, parce que c'est un problème. Quand je dis malheureusement, ça veut dire que pour les gens, c'est pas normal. Vouloir bien faire n'est pas bon chez nous. Vous voyez un peu ce que je veux dire? C'est un peu dans cet état d'esprit que je veux parler. Parce que, en fait, je vous ai dit, c'est la politique que je voudrais installer. Et ce ne sera pas facile. Vous voyez, de faire en sorte que moi je me fais justice en me disant non, je veux pas vendre à tout le monde, je veux pas vendre tout, je veux vendre uniquement ce qui est bon. Vous ne pouvez pas savoir ce que ça me fait, ça me limite beaucoup.
Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à ce niveau, vous avez une cible bien visée.
C'est un choix, mais c'est un choix qui n'est pas facile parce que si vous avez une population de 100 personnes qui ne connaissent pas, qui n'ont pas d'informations. Et que parce que vous avez choisi de faire ce qui est bon, ça vous limite à peut-être 20 personnes. Vous voyez qu'il y a un marché de 80 personnes que vous ne pouvez plus exploiter.
Tout à fait.
Donc nous, on a préféré ces 20 personnes qui sont satisfaites depuis plus de 10 ans aujourd'hui. Vous ne verrez jamais quelqu'un se plaindre des bijoux qu'il a pris chez Dola Bijoux, peu importe la matière. Quand on vous vend quelque chose, ça veut dire qu'au préalable, on a fait des contrôles. Ça veut dire que la synoptique qui est notre matière de base, elle d'office, c'est une matière qui ne vous posera jamais de soucis. C'est la seule matière qu'on peut mettre dans votre corps sans avoir besoin de faire une analyse. Tous les outils, tous les ustensiles qu'on va utiliser à l'hôpital pour vous opérer, et tous sont faits en acier inoxydable. C'est pas moi qui le dis, c'est une réalité. Si vous avez quelqu'un qui a des problèmes de peau avec les bijoux, la matière qui est recommandée, c'est l'acier inoxydable. Il n'y a pas de discussion là-dessus.
C'est très important de le savoir. On fait le choix des bijoux en fonction de son type de peau. Bon, dites-nous, monsieur Silinou, comment être un bon vendeur en bijouterie?
Il n'y a pas de bon vendeur en bijouterie. Il y a un bon vendeur tout court. Vous comprenez ce que je veux dire? La vente, le marketing. Si vous savez positionner une bouteille d'eau, vous pouvez positionner un bijou. Tout, c'est comment capter sa cible, comment poser, comment prononcer son produit, est-ce que ça résout un problème pertinent, est-ce que c'est ça. Donc pour moi le bon vendeur, c'est tout simplement celui qui va avoir le meilleur positionnement par rapport au produit et au problème que le produit résout chez le client. Si vous l'énoncez bien, si vous le prononcez bien, si vous le détaillez bien, alors je crois pas que vous aurez un souci au niveau de votre
vente. Pour le vendeur de bijoux, par exemple, est-ce qu'on ne va pas lui demander un peu plus? Peut-être de soigner son apparence physique, de représenter, parce que le bijou, c'est quelque chose, lorsqu'on voit, c'est quelque chose de précieux, en fait. Alors, la personne qui nous vend un bijou, est-ce qu'on va pas lui demander un peu plus, notamment de soigner son apparence physique, d'être un peu plus méticuleux qu'un vendeur de, je sais pas, d'oignons, par exemple?
J'ai répondu à la question en parlant de marketing. C'est le marketing qui vous enseigne ça. Il y a ce qu'on appelle un marketing, le marketing visuel. Vous voyez ce que je veux dire? L'apparence est un aspect très important dans la vente. Vous n'allez pas venir me vendre une Rolex de 42 millions habillée comme un clochard. Ça passe pas. J'y crois pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, le vendeur lui-même se rendra compte très vite qu'il y a un problème. Il y a ce qu'on appelle l'image de marque.
L'image de marque, justement.
Vous voyez ce que je veux dire? Donc, pour moi, si vous avez des petites notions, des bases de marketing, vous comprendrez très bien que vous ne pouvez pas vous amuser avec votre apparence en fonction de la valeur de ce que vous voulez.
Du produit que vous proposez.
On n'a peut-être pas ce problème, mais nous, on propose des produits pour toutes les classes sociales. Vous voyez ce que je veux dire? On a des produits pour tout le monde. Vous voulez un produit de 50 millions, vous l'aurez. Vous voulez un produit de 5 millions, vous l'aurez.
Alors, monsieur Silenou, parlez-nous un peu du type de bijoux que vous offrez. Hormis la chaîne, qu'on sait déjà que c'est un bijou, est-ce que vous proposez autre chose?
Bon, la chaîne, c'est un accessoire. Et puis, nous on a un concept. Nous, on a un concept qu'on a lancé dès le départ, qui est le placement des ensembles. C'est-à-dire que nous faisons des packages. Boucles d'oreilles pour les femmes, boucles d'oreilles, chaînes, gommettes et une bague offerte à 15 000.
Et hormis ces
hommes, chaînes, gommettes, bagues à 15 000. Pour les enfants de moins de 8 ans, on les laisse une chaîne et une gommette personnalisée. Hein, tout ce que je dis, c'est personnalisé. Avec votre nom dessus, ce que vous voulez dessus, à 7 000 pour les enfants. Oui. Alors, ça, ce sont nos produits les plus prisés. C'est ça, c'est le produit phare des Camerounais. Et même pas des Camerounais, seulement des Africains, parce que nous on vend partout.
Et parmi ces accessoires, est-ce qu'on peut retrouver des montres, s'il y a des commandes particulières,
maintenant,
des lunettes?
Ça, c'est un extra. Je vous ai dit, Dola Bijoux fait dans la conception et la personnalisation des bijoux et accessoires. Ça veut dire que nous avons une pléthore de gadgets, d'accessoires que vous pourrez trouver directement en boutique et qu'on peut personnaliser sur place. Vous repartez avec, on fait tout type de, c'est-à-dire que vous allez venir sur place, il y a des montres, vous choisissez votre montre, on la customise sur place, donc on la personnalise sur place et vous repartez avec tout type de personnalisation.
Alors dites-nous, monsieur Silenou, qui peut ouvrir une bijouterie au Cameroun? Est-ce que l'activité est réglementaire?
Non, on ne peut pas dire que l'activité, je l'ai dit à l'entame, on ne peut pas dire que l'activité est réglementée. Il y a beaucoup, ce n'est pas un secteur qui est normalisé chez nous. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde fait un peu de tout. Maintenant, quand vous me demandez qui peut lancer une bijouterie, moi je vous dirais toute personne qui a les moyens de le faire. Vous voyez ce que je veux dire? La bijouterie en elle-même ne nécessite pas forcément une compétence particulière. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, demandez-moi comment on fait pour être bijoutier, c'est autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est deux mondes différents. Je peux avoir une bijouterie sans être bijoutier.
Tout à fait. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez tout simplement commercialiser des bijoux sans toutefois être bijoutier. C'est bien ça.
Voilà. Maintenant, le bijoutier, c'est un artiste. C'est de l'art. C'est de la création. Il faut manipuler. Il faut créer. Vous voyez ce que je dis? Il faut être patient. Il faut prendre du temps. Il faut être fin. Il faut. C'est. Ouais, c'est. Moi, j'aime bien à dire que c'est l'expression d'une passion.
Tout à fait.
Vous voyez ce que je veux dire? C'est l'expression d'une passion. Ce n'est pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on est téméraire. on est téméraire parce qu'on est passionné, parce qu'on aime ce qu'on fait. On ne demande qu'aux Camerounais, aux Africains d'accepter ce qu'on fait avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de passion. Un bijou qui sort chez nous est toujours rempli de beaucoup d'amour, de beaucoup d'énergie. C'est ça que nous on transmet aux gens. Et puis c'est une façon pour nous de dire aux gens que c'est possible de faire des grandes choses.
Alors, vous êtes bien sur Radio Intégration, comme annoncé au début de notre émission. En seconde partie intitulée Découverte, nous irons découvrir l'Institut universitaire Matafène, créé en 2007 et situé à Yaoundé. L'Institut universitaire Matafène est un établissement d'enseignement qui forme dans les sciences de gestion, les sciences de l'information et de la communication, mais également dans les domaines de l'informatique et les métiers industriels, des formations adaptées aux étudiants comme aux entreprises. L'Institut universitaire Matafène prépare ses futurs lauréats à intégrer rapidement le marché de l'emploi. Nous avons été reçus par Monsieur Ta Liberatus, directeur des affaires académiques et de la coopération de cet institut universitaire. Écoutons-le.
L'Institut universitaire Matafène a vu le jour à la faveur d'un décret de création en 2007. Ses activités ont commencé en 2008 avec des filières de gestion et de communication. Quelques années plus tard, nous avons ouvert des spécialités de technologie, des spécialités technologiques et industrielles. Et aujourd'hui, l'école s'est élargie aux spécialités de droit professionnel et également des spécialités en rapport avec les collectivités territoriales décentralisées. L'entrepreneuriat est un domaine qui touche toutes les spécialités et nous formons les étudiants pour qu'ils ne soient pas seulement des demandeurs d'emploi mais également des créateurs d'emplois. Et d'ailleurs, dans le programme, il est prévu un cours de création d'entreprise et c'est la raison pour laquelle la plupart de nos étudiants s'efforcent de se constituer en groupe ou alors se battre individuellement pour créer leur propre affaire. Donc il y a des cas qui peuvent être cités. Il y a des étudiants qui sont connus sur la place publique pour être des entrepreneurs étant passés par l'Institut universitaire Matafène. Oui, nous sommes très persuadés de ce que ces étudiants soient des véritables créateurs d'emplois parce que nous sommes sûrs de la qualité des informations, de la qualité de la formation que nous leur donnons. Mais la difficulté, l'autre difficulté qu'on a ici, c'est celle de ne pas recenser des étudiants qui ont travaillé, qui ont créé leur entreprise, mais qui ne nous ont pas donné le feedback. C'est parfois quand l'information a fuité qu'on se retrouve, qu'on se rend compte qu'il y a des enseignants, qu'il y a des étudiants qui sont devenus des chefs d'entreprise. Ils sont nombreux sur la place, dans la capitale, un peu partout. On les retrouve aussi à l'étranger. Beaucoup ont trouvé le travail. Donc, nous avons des très bons rapports avec, on ne va pas dire entretenir des rapports avec la sous-région parce que c'est un État qui traite avec un autre État. C'est seulement ce que je voulais apporter comme précision ici. C'est que l'Institut universitaire Matafène recrute et a toujours à son sein les étudiants étrangers, notamment les Gabonais, les Guinéens, les Équato-Guinéens, les Centrafricains, les Tchadiens. Nous avons même les Ivoiriens. Par le passé, nous avons eu les Comoriens, les Rwandais, les Burkinabés. Et aujourd'hui, je pense que ils se sentent très à l'aise. Nous n'avons pas de plaintes. Lorsqu'ils sont reçus ici, nous leur proposons d'abord les logements que nous avons. Et je crois que de manière globale, ils sont satisfaits d'être ici, puisque c'est eux-mêmes qui rentrent faire la promotion de l'Institut universitaire Matafène à l'étranger.
Alors, Monsieur Silinou, que pensez-vous de ces écoles qui forment les apprenants dans le domaine de l'entrepreneuriat?
D'accord. Pour moi, est-ce que on doit former des entrepreneurs à ce niveau, je dis bien ce que je pense, hein, à ce niveau d'évolution de nos mentalités, de notre système, de notre environnement. Je crois qu'on devrait plutôt former des gens à des techniques spécifiques. Vous comprenez ce que on devrait plutôt apprendre des métiers. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et maintenant, en apprenant des métiers à des personnes, il y aura chez certains des déclics qui vont leur pousser à s'écarter de la masse et à vouloir s'individualiser pour créer des grandes choses. Ce sont eux que moi j'appelle entrepreneurs. Maintenant, peut-être pas une formation, mais si on veut dire par là un encadrement, je dirais oui. Parce que si vous prenez quelqu'un qui n'est pas passionné,
peu importe le type de formation
que vous allez lui donner, peu importe l'encadrement entrepreneurial qui va exister, ça ne donnera pas. Parce que il n'a pas la capacité de supporter ce qu'un entrepreneur doit supporter pour réussir.
Alors, revenons dans votre domaine qui est celui de l'artisanat, notamment la bijouterie, et rappelons que vous êtes expert international dans la transformation des aciers inoxydables et COO de l'entreprise Dollar Bijoux. Alors, dites-nous, Monsieur Cyrino, quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face dans l'exercice de vos activités?
Les difficultés, elles sont nombreuses, très nombreuses. Tellement nombreuses qu'aujourd'hui, on ne le voit même plus comme des difficultés. C'est devenu la routine. Ouais, parce que c'est de ça que je parlais. Pour moi, dans l'entrepreneuriat, il faut faire ses classes. C'est pour ça qu'on conseille généralement de commencer au plus bas niveau possible et de grandir. C'est ce que nous on a fait. On a commencé de la bijouterie avec 15 000 francs CFA en 2014. C'est 15 000 francs, c'est la matière, c'est ce qui avait servi d'acheter la première matière première pour faire les premières fabrications. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus vous avancez, plus vous avez de nouveaux challenges. Et je vais vous épargner parce que parler de ce cursus, c'est tellement, je veux dire, peut-être ça pourrait même vous faire couler des larmes. Parce que les challenges ont été chaque fois très, très ténaces. Je me rappelle un jour, j'ai voulu abandonner. Dans ce projet jusqu'ici, il y a trois fois que j'ai voulu abandonner. Parce que c'était compliqué. La première fois, c'est parce que j'avais plein de commandes. Et j'avais pas d'argent pour les réaliser. Parce que j'avais un ami qui avait encaissé de l'argent et qui avait dilapidé cet argent. Donc j'avais le choix entre rappeler les clients pour leur dire vraiment j'ai vos commandes mais j'ai pas d'argent pour réaliser, etc. ou trouver des solutions. Alors j'ai mis mes deux genoux au sol et j'ai prié. Quand je sortais de ma chambre ce jour, mon téléphone a sonné et c'est une femme qui m'a appelé. Elle m'a dit bon voilà, on m'a parlé de ce que tu fais, est-ce que tu peux venir à la maison? Je suis arrivé chez elle, c'était la femme d'un grand monsieur de ce pays. Et elle a passé des commandes pour toute la famille. L'argent qu'elle m'a donné m'a permis immédiatement d'effectuer des commandes et de me relancer.
Ça veut dire qu'il faut mettre Dieu devant. Vous êtes en train de nous passer un message.
Ça, c'est la première.
Mettre Dieu devant
toi. La deuxième fois, j'ai été cambriolé et tout perdu. C'était déjà très compliqué. Et j'ai encore tout perdu. La base de données clients que j'avais, parce que c'était sur WhatsApp. Base de données clients que j'avais, les conversations que j'avais, le téléphone, le bureau, etc. Ma machine m'a tout porté. Alors ce matin, je me suis levé et je me suis dit, c'est quoi? C'est quelle histoire ça? Tu fais quoi? J'abandonne. Alors, j'ai fait un post sur Facebook et j'ai dit aux gens, vraiment, on va arrêter l'histoire. C'est déjà, c'est trop compliqué.
Et qu'est-ce qui vous a motivé?
J'ai reçu des milliers de messages. Des gens qui me disaient non, n'arrête pas, tu peux pas arrêter. Et dans ça, j'ai trouvé la force. Je dis non. Je connais pourquoi je me suis lancé dans ce projet. C'était pas pour gagner de l'argent, de toute façon.
D'abord, une passion.
C'était pour faire quelque chose de différent. C'était pour faire quelque chose de grand. C'était pour faire quelque chose que j'allais pouvoir laisser aux générations à venir. Parce que j'avais compris très vite qu'il y avait une différence entre un grand homme et un homme riche. Je ne veux pas être riche, mais je veux être un grand homme. Il y a de fortes chances qu'un grand homme soit riche. Mais l'inverse, n'est pas obligé. C'est ma façon de réfléchir. Depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire des grandes choses. J'ai toujours été attiré par des choses difficiles, compliquées. C'est mon quotidien. C'est mon comme ça. Ma mère, c'est comme ça. Elle sait. J'ai toujours été très, très turbulent. Parce que pour moi, il fallait que je comprenne. Tu me ramènes un ordinateur, je veux comprendre comment ça fonctionne. Je dévisse.
Donc, vous avez su transformer vos challenges en opportunités.
Exactement. Donc, chaque fois que j'ai eu des gros soucis, je me suis dit non, je ne peux pas abandonner. Il faut que je continue. Et puis, je vous l'ai dit, je fais l'effort de ne pas rentrer dans les détails parce que ça peut être trop long. Maintenant, aujourd'hui, on a la difficulté que tout entrepreneur, toute entreprise qui a fait ses classes doit avoir. C'est booster sa production. On a commencé par produire pour 10 personnes, il n'y avait pas de problème. 100 personnes, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, on se retrouve en train de produire pour 100 personnes alors qu'il y a 10 000 personnes qui en ont besoin. Et ça devient un problème. Déjà que pour les 100 personnes, il faut pouvoir gérer l'enregistrement des commandes, la production, le suivi, etc. C'est des charges qui augmentent. Et nous, à un moment donné, par manque de sagesse, je vais dire ça comme ça, on s'est lancé dans beaucoup de choses à la fois. Ce qui a eu un impact. Parce que à la fois, on ouvrait au Gabon, au Congo, etc. C'était des erreurs. Parce que à ce moment, j'étais tellement passionné que je ne voulais pas regarder si j'avais les capacités de faire.
De répondre à la demande.
Oui, ce que je veux dire. Pour moi, c'était que s'il y a des gens qui en veulent là-bas, il faut qu'on y soit. S'il y a. C'est pour ça que parfois, dans les entreprises, on vous dit, c'est bon d'avoir des conseils. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez être l'entrepreneur le plus percutant du monde entier. Vous aurez toujours besoin d'un conseil parce que vous ne pouvez pas tout maîtriser. À cette époque, si j'avais par exemple un fiscaliste ou un comptable, on a vraiment grandi dans le tas. Vous voyez ce que je veux dire? On est passé de l'informel au formel sans avoir un quelconque accompagnement. Aujourd'hui, on a une douzaine de jeunes qui travaillent avec nous, plus d'une trentaine qui sont liés au projet. C'est un espoir.
Tout à fait, c'est un espoir. Lorsqu'on emploie près de 10 personnes, ça veut dire que c'est pas facile.
Parce qu'on a une vision. Aujourd'hui, on a besoin, par exemple, des équipements. Et des équipements qu'on ne peut pas financer à fonds propres. Je disais encore ce matin dans un de mes articles que il y a un moment pour se tourner vers la banque. Et ça, on l'a compris. Vous voyez ce que je veux dire? On est bloqué aujourd'hui tout simplement parce qu'il n'y a pas une véritable politique dans notre pays qui encourage l'entrepreneur.
Justement, en parlant de fonds propres, on a envie de vous poser la question de savoir si vous n'avez pas des partenaires. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'on gère une entreprise, on a besoin de s'associer à d'autres personnes. Si vous en avez déjà des partenaires, que pouvez-vous nous dire à propos de cela? À quel moment prend-on un partenaire pour pouvoir poursuivre son activité?
Moi, je dirais même que c'est une chance si vous avez un partenaire.
Oui.
Et tout dépend de la façon. De la façon avec laquelle le partenaire se prononce, parce que tous les partenaires ne sont pas bons pour votre projet. Mais c'est des opportunités. Si vous avez un partenaire qui comprend votre vision, qui veut travailler avec vous, qui veut que vous avancez, c'est une bonne chose. Il n'y a pas un moment pour ça dans une entreprise. Moi, je dirais que c'est de la chance. Pourquoi est-ce que je veux dire? Parce que normalement, une entreprise doit prouver qu'elle peut avoir des partenaires. Maintenant, si vous avez des personnes qui sont prêtes à vous accompagner, quand vous venez de commencer, c'est une chance. Moi, quand j'ai commencé, je me suis donné 3 ans pour voir si mon projet va marcher. Ensuite, je me suis dit, si après ça, je vais me donner encore 3 à 4 ans avant de me placer devant quelqu'un pour dire oui, j'ai un projet. Et ça, je n'attendais aucun bénéfice. On a commencé, on n'avait même pas de boutique. Aujourd'hui, on a des boutiques. On a des showrooms, on a un atelier en ville, on a des partenaires dans plusieurs pays, mais ce n'est pas facile de gérer tout ça.
tant que vous n'avez pas maîtrisé votre production, tant que vous n'êtes pas capable de réaliser un certain chiffre d'affaires. Et c'est là qu'on a besoin de partenaires.
Très bien. Vous avez mentionné que vous employez plus d'une dizaine de personnes. Alors, la question est de savoir quel rapport vous entretenez avec vos employés. Êtes-vous un patron ou alors un leader?
Je dirais un leader.
Oui.
Je dirais un leader tout simplement parce que je vous ai dit que je suis en train de mettre sur pied un empire. Et vous ne pouvez pas mettre sur pied un empire si vous n'avez pas des gens qui épousent votre philosophie. Si vous n'avez pas des gens qui regardent dans la même direction que vous. Et ça, il faut être un leader pour y arriver. Parce que pour moi, le patron va se concentrer uniquement sur les bénéfices de l'entreprise. Le leader va jusqu'à se concentrer sur la mentalité de son équipe, de son personnel. Moi, je préfère... Aujourd'hui, j'avais discuté avec Mami Nyanga, comme on l'appelle souvent, Madame la sénatrice, oui. qui me disait, écoute, c'est mieux d'avoir dans ton entreprise des personnes compétentes, même si elles n'ont pas épousé ton projet, que des personnes qui ont épousé ton projet et qui ne sont pas compétentes. Qui ne sont pas compétentes. Moi, je lui ai dit, c'est pas la vision que moi j'ai. Moi, je préfère mille fois quelqu'un qui est fier d'être au travail, qui aime ce qu'elle fait, qui est content de travailler, d'être avec nous, même s'il n'a pas de compétences, parce que la compétence, on peut l'acquérir.
On peut l'acquérir, tout à fait.
Oui, c'est ce que je veux dire. Donc, pour moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. Ici, avec mon équipe, j'ai des liens particuliers. On partage des choses, c'est comme une famille. Vous voyez, quand il faut être nerveux, on est nerveux. Quand il faut s'amuser, rester dans la joie, on est dans la joie. Mais ils connaissent que voilà la vision qu'on a. Ils ont accepté de participer.
Et comment envisagez-vous être une opportunité pour les PME?
Je l'ai dit tout à l'heure. Aujourd'hui, il suffit de regarder la demande de ces PME pour voir ce qu'on pourra apporter comme soulagement si on arrive à mettre sur pied une véritable unité semi-industrielle, comme ce qu'on veut faire, on veut réaliser. Parce que jusqu'ici, on n'est même pas à 10% de notre produit. On n'est même pas à 10% de notre développement. Vous voyez ce que je veux dire? Aujourd'hui, il est question pour nous, quand vous avez parlé de problèmes rencontrés. Les problèmes qu'on rencontre aujourd'hui, c'est le problème d'équipement. On a besoin d'équipement pour améliorer, booster la production, parce que le marché est là, il est réel. La demande est forte et évolue chaque jour. Et les entrepreneurs dont vous parlez sont des potentiels clients et seront la priorité de notre production parce qu'on connaît leurs besoins. Ça fait des années qu'ils nous contactent, mais on ne peut pas répondre à leurs besoins, donc ils sont obligés de se tourner vers l'import. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ne sont pas forcément très heureux parce qu'on va leur imposer beaucoup de choses. Mais nous voulons résoudre ça.
Et peut-on dire, Monsieur Silinou, à ce jour, peut-on dire que l'activité nourrit son homme?
Quand vous dites que l'activité nourrit son homme, je dirais que l'activité maintient son homme. Mmh. Parce que je veux qu'on comprenne très bien, on n'a jamais rien profité du projet de la bijou. Ça, il faut que les gens le sachent. Le moindre centime, jusqu'aujourd'hui, a toujours été réinvesti pour le maintien de l'activité. Parce qu'en réalité, pour qu'on commence véritablement à être nourri par ce projet, il faut booster la production. Ça veut dire que si on doit par exemple faire un chiffre d'affaires de 1 million le mois, je prends un exemple. Si on doit faire un chiffre d'affaires de 1 million le mois et que c'est 10 clients qui nous donnent ces 1 million là, vous voyez ce que je veux dire? Le problème c'est qu'actuellement, on va avoir ces 10 clients, mais on aura ces 1 million. C'est 1 million qui nous permettent, par exemple, de couvrir nos charges.
Les charges.
Maintenant, si on veut faire plus de 1 million, on a la possibilité. Soit il faut avoir plus de clients. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et c'est notre cas aujourd'hui. Ce que nous on veut, c'est avoir plus de clients pour la même période de production. Parce que les 1 mois là, c'est 1 million là, c'est le maximum de notre production. Donc soit on accélère la production, donc on produit plus,
pendant la même période, soit on augmente la quantité de clients pendant la même période. Et tout ça est basé sur la production. Tant que nous, on n'arrive pas à produire plus que ce qu'on est capable de produire aujourd'hui manuellement, on a un problème. Nous, on n'a plus le problème de clientèle. On a déjà la clientèle. On a tellement de gens, on a une base de données de plus de 70 000 clients qui ont chacun un modèle spécifique qu'on n'est pas capable de réaliser aujourd'hui. Mais par patriotisme, ils attendent qu'on soit capable. Ils nous décrivent tout le temps. C'est pas encore possible, c'est pas encore si, c'est pas envie de patienter. Quand on aura les équipements, ce sera possible. On va réaliser le même chiffre d'affaires en une journée.
Puisqu'il faut bien répondre à la demande. Présentement, vous avez la demande, elle est là. Ouais. Sauf que au niveau de la production, ça ne suit pas.
Exactement.
Quel message pouvez-vous donner aux jeunes qui nous suivent et qui souhaiteraient peut-être, comme vous, se lancer dans l'entrepreneuriat?
Je le dis toujours. J'aime
bien le dire. Le seul message qui, pour moi, a de la valeur, si on parle d'entrepreneuriat, c'est de dire à mes frères, à mes grands frères, à mes petits frères, aux aînés, que si jamais il vous venait à l'esprit de lancer un projet, la chose dont vous devez prendre la peine de vous rassurer, c'est que vous avez une passion pour ce projet. Parce que si vous n'avez pas de passion pour ce projet, il y a de fortes chances que vous n'y arrivez jamais. Certaines personnes vont me demander, mais comment on peut dire non? Vous ne devez pas être bête. Vous devez. La passion, ça se crée. C'est un déclic. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous voulez vous lancer dans la production, je sais pas trop quoi, dans la vente de téléphone. Hein, je prends un exemple pour vous expliquer. Dans la vente de téléphone. Alors, ne vous levez pas un matin, pas acheter le téléphone, venez comment ça va? Non. Commencez à créer un lien avec le téléphone. C'est-à-dire que vous devez comprendre le téléphone. Vous devez avoir envie de parler du téléphone à quelqu'un. Et quelqu'un doit vous écouter parler du téléphone et dire waouh. Donc moi je ne connais pas le téléphone. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ça, ça va vous porter. Parce que même dans le choix du téléphone que vous allez vendre, vous allez faire la différence. Et les gens ne comprendront pas forcément votre façon de faire les choses. Parce que vous êtes passionné. Ce n'est plus qu'un problème d'argent, mais c'est un problème de rendre les gens heureux.
Tout à fait, monsieur Silenou, vous restez avec nous. Nous vous demandons une pause et revenons juste après le jingle.
Tout savoir sur Radio Intégration.
Rendez-vous sur le site
www.journalintégration.com
et découvrez toute notre actualité.
Toute notre actualité.
Nos émissions. Notre équipe et nos programmes.
Radio Intégration, la voix des communautés.
Passons à présent à la dernière partie de notre émission intitulée Clin d'œil. Comme vous le savez, l'instant entrepreneurial, c'est aussi un regard de Radio Intégration sur les différentes communautés vivantes au Cameroun. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'activité de la CAS. C'est la vente de pièces automobiles de seconde main qui s'opère au quartier Vogada à Yaoundé. Cette activité qui a vu le jour dans ce quartier populeux de Yaoundé depuis près de deux décennies est essentiellement animée par des Nigériens. Allons donc à la rencontre de Monsieur Elias Ogou. Ressortissant nigérien, il est directeur général et président de cette CAS. Il va nous parler de son activité et surtout de son intégration au Cameroun.
Mon activité, comme vous pouvez constater, je suis un commerçant dans le domaine des ventes de pièces détachées, automobiles de seconde main. Je suis arrivé au Cameroun pour ma première fois le 2 octobre 1984. Et depuis 7 ans-là, je suis là. Je suis au Cameroun. C'est vrai que je n'ai pas débuté à Yaoundé. J'étais premièrement à Douala avec mon feu patron, paix à son âme, et qui m'a amené au Cameroun comme un aide-vendeur. Vous savez, nous, des Nigériens, nous avons une tradition qui est telle que tu peux exercer dans une affaire spécifiée et puis tu décides quand tu vois que tes affaires grandissent ou alors que tu raisonnes que tu ne peux plus le faire toute seule, tu peux aller au pays prendre l'un de tes membres de famille, voire même on a cette tradition là et une tradition qui ne se retrouve que chez les Nigériens, précisément les Igbo et chez les Juifs. Alors je suis donc arrivé chez mon patron comme ça, par ce canal, sur l'accord qu'il a signé avec mes parents que je devrais travailler avec lui pendant 8 ans. Et ce que j'ai fait. Et après ça, on m'a donné mon mérite. Et puis de là, j'ai décollé à titre personnel maintenant. L'atmosphère est très très bonne. Elle est très bonne parce que si quelqu'un ne se sent pas à l'aise et ne serait pas là, vous voyez déjà le nombre d'années que j'ai fait. Si l'accueil n'a pas été bon, ou alors s'il y avait un problème quelconque, on ne serait pas là jusqu'au jour d'aujourd'hui. C'est l'atmosphère, l'amour qui règne entre nous et nos pays d'accueil, qui sont les Camerounais, sont inexplicables. Nous partageons toutes choses ensemble. Et vous voyez, la CAS originelle, dans les premières années, la CAS a été fondée par des Nigériens, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de Camerounais. Il y a même plus de Camerounais actuellement que les Nigériens. Et puis, cet amour est déjà installé et c'est là. On s'entretient de manière à ce que quand j'ai un client et qu'il sollicite quelque chose que je n'ai pas, je pars chez mon voisin, le Camerounais, je prends chez lui, je vends et je lui retourne son argent. Vous voyez déjà, donc on s'entend très bien. Ma toute première gars que j'ai formé, c'est un gars Yambassa. Et il a fait aussi, selon l'accord qui a été signé avec moi et ses parents, et il s'est détaché. Il a commencé, après il est allé en Europe. Et là où je vous parle encore, j'ai un autre gars, un gars Bassa, qui est aussi l'un de mes employés. Ouais, quand je dis employé, c'est comme si on s'entraide. Tu vois, je n'ai pas, en dehors de ça, là, je n'ai rien d'autre. Mais voilà. Et il m'aide à vendre, et avec le temps, et avec ce que je peins, je peux aussi lui dire que bon, voilà, un peu, débrouille-toi aussi. J'étais très ravi quand on m'a parlé. Tu vois, quand tu es né dans une nation avec une famille qui n'est pas aussi équilibrée que ça, et entendre qu'on vit au Cameroun, c'est quelque chose qui fait chaud au cœur. Et moi, je me suis dit, ah, pourquoi n'est pas par curiosité, quoi. Ah ouais, c'est pas que j'avais un choix. Je suis venu là parce que je voulais aussi changer, je voulais voir comment ça se passe du côté du Cameroun. Et on s'est retrouvés jusqu'à aujourd'hui. Ce n'était pas ce que c'était aujourd'hui. Voilà, ça évolue. Et on s'est dit aussi que le jour au lendemain, ça pourrait aller au-delà de là où nous sommes aujourd'hui. Vous pouvez, si j'ai aujourd'hui 53 ans et que je suis arrivé au Cameroun en 84, vous pouvez imaginer l'âge que j'avais quand j'étais au Nigeria. J'avais à peine 15 ans. Ouais. Et moi, j'ai déjà fait 40 ans au Cameroun. Vous allez être d'accord avec moi que je connais mieux le Cameroun que le chez moi. Et en plus, je me suis marié d'une Camerounaise. Alors, donc, s'il faut le dire, le Cameroun, c'est ma deuxième nation.
Hey, papina tunamo wele moya nyebe miya baby biko kai baisha ifenke no aso kwemo opioma imani fiku kwa kisiregu opioma sewe puti ya kantegi fe opioma imani fiku kwa kisiregu opioma sewe puti ya kantegi fe unafuku mwataje mao unafuku utana micham onyewe mwana vyo unafuku yoyo opioma biasie nuka ikubareba.
Nous sommes arrivés à la fin de notre émission, l'instant entrepreneurial édition de ce jour. C'était trois parties. La première, dénommée portrait, nous avons reçu en posture d'invité Monsieur Cielino Clotaire, expert international dans la transformation des aciers inoxydables, CEO de l'entreprise Dollar Bijoux située à Yaoundé, qui a répondu à toutes nos préoccupations relatives au domaine de la bijouterie. Merci Monsieur Cielino. Nous, Clotaire, d'avoir accepté notre invitation.
Je vous remercie aussi.
Nous espérons vous avoir de nouveau sur cette antenne pour une nouvelle émission.
D'accord, avec plaisir.
En seconde partie intitulée Découverte, nous sommes allés découvrir l'Institut universitaire Matafène. C'est une école supérieure de commerce et gestion d'entreprise située dans la ville de Yaoundé qui forme les apprenants dans les métiers du commerce. Nous avons rencontré Monsieur Ta Liberatus, directeur des affaires académiques et de la coopération. En troisième partie, nous avons fait un clin d'œil à cette communauté nigériane qui opère dans la vente des pièces automobiles de deuxième main appelée CAS au quartier Mvogada à Yaoundé. Monsieur Elias Ogou, ressortissant nigérian, directeur général et président de cette CAS, nous a parlé de son activité et surtout de son intégration au Cameroun. L'instant entrepreneurial à la technique, nous étions assistés par Josué Nabral. Je suis Joël Effa au micro de présentation. Restez connectés à nos différentes plateformes en ligne, notamment notre site web au www.radiointégration.com et sur nos pages et comptes Facebook et Instagram Radio Intégration. Ravi de vous retrouver jeudi prochain lorsqu'il sera 10h. D'ici là, portez-vous bien.
Suivez Radio Intégration sur Facebook,
X,
Instagram,
YouTube.